Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres, animé par moi, Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr. En bonne milléniale, je dois avouer que je passe plusieurs heures par jour sur les réseaux sociaux et sur YouTube, toujours un peu fascinée par ces gens qui ont réussi à en faire leur métier. C'est justement dans cet univers des créateurs de contenu que je vous propose de plonger aujourd'hui en écoutant Hors Ligne, produit par la RTBF. Dans ce podcast, en 8 épisodes, on suit le parcours de Maxime alias Mazouf, un jeune YouTuber aux 5 millions d'abonnés. À première vue, tout lui sourit, il vit de sa passion, sauf que dès le premier épisode du podcast, on assiste à un craquage.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Ben non, ça marche pas, putain. Personne n'y croit, même moi j'y crois pas, fais chier. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'ai envie de rien faire. Je sens que je vais péter les plombs en vrai. Tout me gave, tout. Ce tournage, cette vidéo, mais même vous me gavez en fait avec vos messages et vos commentaires. Désolé, mais en fait le pire c'est que je peux pas être sincère et dire ce que je pense. Parce que si vous me voyez balancer un salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, bah j'ai envie de crever. Ben non, mais ça va pas, je peux pas faire ça. Sinon quoi? Sinon je me retrouve avec des centaines et des centaines de commentaires qui vont juste se foutre de ma gueule. On va dire que je suis un chouineur, Mazouf, il est jamais content, tout le monde voudrait faire des vidéos, et lui il se plaint. En vrai, la vérité, j'en ai marre de ce métier. Moi j'ai qu'une envie, c'est d'arrêter je crois. Trop de stress, trop de pression. Faut toujours sourire devant la caméra, toujours trouver le meilleur concept de vidéo, toujours faire le plus de vues, gagner sans cesse des abonnés. Et attention, il faut les chouchouter les abonnés. Parce que si t'as le malheur de faire un truc qui ne plaît pas à Kevin le beau gosse 2005, eh ben Kevin le beau gosse 2005, il va te le faire payer et il va t'harceler sur tous les réseaux. Bah oui, bref. Je sais pas, c'est la première fois que ça m'arrive. Je me lève un matin et plus d'envie, plus d'inspiration, plus de sourire. J'ai l'impression que cette chaîne YouTube, elle m'étouffe, genre ces millions d'abonnés m'oppressent, genre. Ouais, faut j'en parle. Je vais appeler un pote. Hein.
Mazouf est paumé, il ne trouve plus de sens à son travail, alors pour répondre à ses questions, il se tourne vers d'autres créateurs de contenu comme le YouTuber Inoxtag, la streameuse Twitch Manonolita ou encore le comédien Greg Guillotin, spécialiste des caméras cachées. Ils partagent leurs expériences et leurs conseils sur des sujets aussi intimes que la santé mentale, le temps de travail, le cyberharcèlement ou le rapport qu'ils ont avec leurs fans ou leur communauté, comme on dit dans le milieu. Mais ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que Mazouf n'existe pas. C'est un personnage inventé de toutes pièces par le journaliste Redouane Tella, qui a écrit ce podcast de docu-fiction pour alerter sur les conditions de travail des créateurs de contenu. J'ai voulu comprendre pourquoi il avait choisi d'utiliser la fiction pour soulever le capot de cet univers. Je l'ai donc invité dans Sans Algo. Bonjour Redouane Tella.
Bonjour Mathilde.
Qu'est-ce qui vous intéresse dans la figure du créateur de contenu ?
Moi, c'est ma culture. En fait, j'ai grandi dans les années 2000, donc j'ai vu tous les nouveaux réseaux sociaux émerger, la culture d'abord des forums, et puis j'ai vu les premières vidéos arriver, d'abord sur Dailymotion et puis sur YouTube. Et puis ouais, c'est vraiment une culture à part entière et c'est la mienne.
Vous êtes journaliste, vous travaillez à France Inter. Alors pourquoi vous avez choisi d'écrire un docu-fiction et pas simplement de faire un travail journalistique d'interview de créateurs et créatrices de contenu ?
Pour deux raisons. D'abord parce qu'il me fallait un personnage qui puisse avoir plusieurs raisons de craquer. Parce que la plupart du temps, chez les créateurs de contenu, bah, comme tout le monde, quand on fait un burn-out, certes c'est multifactoriel, mais bon, ça peut être soit la charge de production qui est trop importante, soit le cyberharcèlement, ou que sais-je. Et là, j'avais envie de traiter tous les sujets. Donc je me suis dit qu'il me fallait un fil rouge pour pouvoir traiter tous ces sujets à la fois. Et puis l'autre raison, c'est qu'il y a plein de créateurs de contenu qui ne voulaient pas me parler en on, qui voulaient parler en off parce qu'ils avaient peur de passer pour des chouineurs, c'est le terme que j'emploie souvent dans le podcast d'ailleurs. Je trouve ça indécent vis-à-vis de leur communauté, vis-à-vis de leurs fans, leurs abonnés, de parler de tout ça. Donc j'avais besoin d'avoir un personnage qui puisse me permettre de raconter tous ces créateurs et créatrices qui ne veulent pas parler, mais qui pourtant vivent des choses assez intéressantes.
Et le sujet du burn-out dans ce milieu-là, comment ça vous est venu cette idée ?
Pour le coup, c'est une idée de la RTBF. C'est la RTBF d'abord qui avait fait un appel à projet en disant « c'est un sujet qui nous intéresse ». Et moi, c'est un sujet que j'avais vu émerger déjà il y a quelques temps, parce que quand j'animais une émission qui s'appelait Pouce sur Click TV, donc c'est une émission qui était consacrée à la culture internet et aux créateurs de contenu, à chaque fois que je recevais un créateur de contenu, j'avais l'impression qu'il n'allait pas bien. Et à ce moment-là, j'avais l'impression qu'ils n'avaient pas forcément conscience de leur mal-être. Je les voyais très fatigués, parfois déprimés. Donc c'est un sujet que j'avais en tête depuis longtemps et je cherchais un endroit où le traiter. Et quand j'ai vu cet appel à projet de la RTBF, je me suis dit que c'était l'occasion parfaite.
Votre personnage principal est youtubeur, il s'appelle Mazouf. De qui vous vous êtes inspiré pour ce personnage ?
De pas mal de créateurs, à la fois de Mastu, qui a pas mal parlé de sa dépression, mais aussi de Lena Situation, en passant par Michou. Il y a un peu de moi aussi, bien évidemment, dans ce personnage, parce que ce soit sur l'exposition ou les commentaires négatifs, etc. En réalité, on est tous un peu nos propres petits médias, nos propres petits créateurs de contenu, chacun de notre manière. Donc on vit tous ces choses-là. Et c'est ça aussi qui m'intéressait, c'est que c'est des sujets qui concernent tout le monde. À partir du moment où on a un compte Instagram, Twitter, etc., bon, on peut être exposé au même type de problématiques que ces créateurs de contenu.
Qui joue ce rôle ? Et surtout, comment vous avez casté la personne qui allait jouer le rôle principal de votre podcast ?
Puisque c'était en collaboration avec la RTBF, on s'est dit qu'il valait mieux un acteur belge. Je voulais un acteur qui colle parfaitement à l'esprit d'un créateur de contenu. Je voulais quelqu'un d'un peu mou dans le flow, qui mâche un peu ses mots. En l'occurrence, Mazouf mâche ses mots comme Lena Situation les mâche. Je cherchais un peu ça, cette attitude un peu jeune et compagnie. Et j'ai demandé à Alex Vizorek de m'aider. C'est le seul Belge que je connais. Et Vizorek m'a tout de suite conseillé un stand-upper qu'il connaissait, qui s'appelle Nikos, qui est une star montante du stand-up en Belgique. Il a la gueule d'un créateur de contenu. Donc tout de suite, je me suis dit, bon, en fait, c'est crédible. Et puis, on a fait quelques tests, on s'est dit que ça pouvait être marrant avec lui.
Quand vous l'avez rencontré pour la première fois, qu'est-ce que vous aviez déjà de ce projet ? Est-ce que vous aviez déjà un début de script, une trame ? Vous aviez déjà en tête des gens que vous voudriez interviewer ?
La première réunion, on n'avait quasiment rien. Et par contre, on a fait deux sessions d'enregistrement avec lui. Parce que vu qu'il vit à Bruxelles, il fallait le faire venir à Paris, parce que nous, on enregistrait tout à Paris avec le réalisateur Charles de Cilia. Donc, on devait se faire deux sessions d'enregistrement. La difficulté de ce podcast, c'est que Mazouf, donc Nikos qui joue Mazouf, dialogue avec des créateurs de contenu, mais ces créateurs de contenu, en réalité, n'ont jamais dialogué avec Nikos. C'est moi qui les ai interviewés, et il a fallu recréer des fausses discussions. Donc le problème, c'est qu'au fur et à mesure des interviews, au fur et à mesure qu'on calait des interviews, qu'on les enregistrait, on écrivait et on montait. Et le dernier step, c'était les enregistrements des voix avec Nikos.
On le sait, les créateurs et créatrices de contenu sont souvent un peu frileux pour répondre aux journalistes et aux médias. Est-ce que ça a été facile de convaincre des créateurs et créatrices de contenu de vous parler et surtout de vous parler de leur quotidien et des difficultés de leur métier ?
Non, et pourtant Dieu sait qu'on a un lien de confiance que j'ai développé au fil des années. Ça fait quasiment 10 ans que je traite de ces sujets, à la fois sur France Inter, puis sur Click, aujourd'hui avec la RTBF. Ça fait très longtemps que je les côtoie, mais c'est toujours aussi compliqué. Il y a des créateurs qui ne veulent pas parler en dehors de leurs espaces. Il y a aussi d'autres créateurs qui ne veulent pas du tout parler de ces sujets. Ils considèrent qu'ils ne font que du divertissement et qu'ils n'ont pas à intervenir ailleurs. Pour info, j'ai eu une 40aine de créateurs de contenu qui ont accepté de collaborer d'une manière ou d'une autre au podcast. Je crois qu'on en a enregistré 10, si je ne dis pas de bêtises, un peu moins. Et il y en a une 40aine qui ont participé en off.
Est-ce qu'on peut reparler un peu du dispositif des interviews ? C'est donc vous qui avez interviewé tous ces créateurs et créatrices de contenu. Vous arriviez avec une thématique en tête pour chaque personne ?
Alors, il y a certaines personnes à qui j'ai posé des questions très spécifiques. Typiquement, Mehdi Florian, qui est un TikToker qui est assez précaire. Je voulais vraiment l'avoir sur la précarité et je voulais l'avoir sur le cyberharcèlement. Inoxtag, je voulais l'avoir sur les grosses productions. Et il y a d'autres créateurs pour lesquels j'ai enregistré 1-2 heures. Je suis resté avec eux vraiment longtemps pour tirer le meilleur. Et alors, pour revenir au procédé, je les interviewais longuement et ensuite, je reconstituais des dialogues factices avec notre créateur de contenu. Je créais d'une certaine manière du rythme dans ses questions, etc. Et puis parfois, ils partaient dans le long tunnel où là, en l'occurrence, j'avais pas prévu de poser ce type de questions. Et ben, je recréais une question de Mazouf pour relancer.
Et vous leur faisiez valider avant diffusion ?
Non. Mais par contre, ça faisait partie du deal qu'on allait réutiliser leurs réponses, que de toute manière, on n'allait pas travestir leurs propos. Mais c'était dans le pack de départ d'avoir de la fiction. Donc, ils étaient d'accord sur ça aussi.
Au début du podcast, Mazouf décide de faire une pause, puis il revient dans l'émission de Zach Nanny, qui est donc un vrai streamer Twitch. Et juste après l'émission, il parle de ça.
Je te jure, je me tâte vraiment à me lancer, mais il y a juste un truc qui me bloque, c'est le système d'abonnement payant. Déjà que là, mes followers pensent que je leur dois quelque chose, et du coup, dès que je m'absente quelques jours, ils mettent un peu des coups de pression, tu vois. Mais s'ils payent, je suis foutu. Toi, tu fais comment pour résister aux injonctions des abonnés?
En fait, il n'y a pas vraiment d'injonction parce que je suis naturellement présent, ils n'ont pas besoin de me le demander. Et quand je ne suis pas là, c'est pour une période de temps déterminée où ils savent combien de temps je ne suis pas là. 2, 3, 4 jours, une semaine. Ça va rarement au-delà d'une semaine, ça va même jamais au-delà d'une semaine parce que, comme je l'ai dit, Twitch, c'est la régularité. C'est comme YouTube, mais encore plus poussé. Et pour être extrêmement régulier, ça demande un certain volume de live par semaine. Je dirais minimum 5 à 6 jours par semaine de live avec 1 ou 2 jours off éventuellement. Ce qui donne un volume idéal par mois entre 80 et 100 heures, ce qui fait à peu près en moyenne du 3 heures par jour streamé, si on compte pas de jours off. Mais en tout cas, pour moi, c'est nécessaire parce qu'en fait, ce qui est important, c'est de créer une habitude. Moi, tu vois, quand il y a des gens qui subent sur mon stream, je te dirais quand même que la majorité des gens qui subent, c'est des resubs. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont là depuis déjà quelques mois, voire pour certains quelques années. Hier ou avant-hier, j'ai eu un mec, c'était son 97e mois. 97e mois, on parle quand même de plus de 50 subs, tu vois. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Vraiment la régularité obligatoire.
Cette règle de la régularité pour construire une communauté, pour arriver à en vivre, c'est uniquement sur Twitch, c'est toutes les plateformes, c'est plus fort sur Twitch qu'ailleurs?
C'est toutes les plateformes, mais vous le savez aussi, c'est aussi dans le podcast d'ailleurs. Quand on n'est pas régulier dans le monde du podcast, malheureusement, on perd en abonnés, on perd en nombre d'écoutes. C'est une bataille de l'attention constante et c'est terrible sur Twitch, parce qu'en l'occurrence sur Twitch, il y a un système d'abonnement payant. Comme on l'entendait. Donc,
qu'il appelait les subs.
C'est les subs. Donc le système d'abonnement payant, si tu ne produis pas assez de contenu, pourquoi l'abonné irait payer pour un créateur qui ne produit pas assez? Donc il y a cette pression. Il y a quelques années, quand je parlais à des Kameto, par exemple, qui sont... Kameto, c'est un très très gros streamer. Bah, même un Kameto n'osait pas prendre plus de 2 semaines de vacances parce que il savait qu'il allait perdre la moitié de ses subs. Donc la moitié de ses revenus. Ça, c'est une pression. Et puis en plus, l'algorithme pousse à produire toujours plus. Donc typiquement, sur TikTok ou sur YouTube, quand on a des périodes où on ne produit pas, la vidéo suivante, on est moins mis en avant par la plateforme. C'est assez terrible comme système.
À un moment de l'histoire, le personnage de Mazouf est victime d'une vague de cyberharcèlement après qu'une fille avec qui il discutait ait fait fuiter, en tout cas diffuser sur les réseaux, les messages qu'ils échangeaient. Il se tourne donc vers son amie, en tout cas son amie fictive, la streameuse Manonolita, pour qu'elle lui raconte comment elle a géré ça.
Allô Manon, comment ça va?
Ça va et toi?
Visiblement t'es passé à côté, mais je me prends un peu un gros cyberharcèlement bien vénère ces derniers jours. Enfin bref, j'ai pas trop envie de te prendre la tête avec ça, je voulais juste que tu me racontes comment ça s'était passé pour toi à l'époque, genre.
Je t'avoue que c'était il y a un petit moment maintenant, mais comme toi, sur les réseaux sociaux, j'ai pris des vagues de haine monstrueuses avec des commentaires très négatifs. Ça partait de messages humiliants jusqu'aux insultes. Donc pendant 2 ans, c'était pratiquement tous les jours, et quand c'était pas tous les 2 jours, c'était minimum 2 fois semaine. C'était vraiment un harcèlement assez ciblé, donc ça partait d'insultes banales sur le réseau, on va dire, jusqu'à des menaces, donc des menaces de mort, des menaces de viol, des insultes parce que j'étais une fille sur les réseaux sociaux qui joue aux jeux vidéo, et c'est compliqué à accepter pour beaucoup de gens. Ça a été un peu plus loin avec le temps que... du virtuel, mais ça, c'est une autre histoire.
Elle le dit à la fin, ça a été plus loin que du virtuel. C'est aussi une problématique que vous abordez beaucoup dans ce podcast, le fait que quand on est créateur de contenu, les gens nous reconnaissent dans la rue et en fait, c'est pas que sur Internet. Comment ils font aujourd'hui les créateurs de contenu pour essayer de se protéger de ce genre de choses?
Ils évitent au maximum les relations in real life, comme on dit, dans la vraie vie. Vraiment. Moi, c'est un aspect de l'enquête qui m'a fait le plus flipper, je crois. Ils se méfient aussi bien des messages négatifs, des gens qui les détestent, mais aussi de leurs fans. Donc ouais, ils mettent à distance la réalité. Ils s'enferment la plupart du temps chez eux, ils ne sortent pas, ou en tout cas quand ils sortent, ils mettent plein de verrous. Dans la partie fictive, à un moment donné, il y a Mazouf qui sort avec un masque, des lunettes et une casquette. Et ça, pour le coup, c'est le récit de nombreux créateurs de contenu. Et quand ils sont dans des événements, en soirée, ou même un match de foot ou un concert, bah, ils sont obligés de sortir camouflés. Parce que la moindre personne qui va les reconnaître, bah, ça peut créer des problèmes. Ils ont peur parfois d'être suivis. Non, il y a des cas assez terribles. Et puis, tout ce qu'on trouve sur toi, sur Internet, est épluché. Il y a Manon Lolita qui le raconte dans le podcast, il y a aussi Sherazade qui le raconte très bien, qui dit que, qu'une fois, un abonné a découvert où ses parents habitaient. Donc oui, non, ça va beaucoup plus loin que sur les plateformes, et même sur les réseaux, en réalité, on a tendance à atténuer, et ça, j'avais envie de le raconter dans le podcast, que ton entourage te dit « mais non, mais éteins ton téléphone, c'est rien, c'est juste une vague de cyberharcèlement ». Ben non, c'est pas rien, ça existe, c'est réel, ça fait mal. Le simple fait que de savoir qu'on parle de toi sur les réseaux, ça peut te détruire. Et en l'occurrence, eux, ils ont fini par s'habituer.
J'ai été surprise en lisant les crédits de votre podcast de découvrir qu'il était produit par Webedia,
oui,
qui est donc un groupe média qui a investi massivement dans la création de contenu web depuis un peu moins de 10 ans et qui a dans son écurie, si on peut dire ça, notamment Inoxtag que vous avez dans le podcast, mais aussi de très gros créateurs de contenu comme Just Ryan. Comment ça se fait que vous ayez collaboré avec Webedia ?
Webedia me connaissait parce qu'ils connaissent mon travail sur la création de contenu. Ils voulaient répondre à l'appel à projet parce qu'ils considèrent, eux, que c'est important pour Webedia de prendre la parole sur ces thématiques, parce qu'ils le vivent aussi, d'une certaine manière. Le talent manager que j'interviewe, c'est un talent manager de chez Webedia, et ils sont conscients de ces problématiques. Donc, ils avaient envie d'en parler, ils avaient envie de se saisir de ce sujet, et ils avaient envie de le faire avec moi, parce qu'ils savaient qu'avec moi, je travaillerais en totale indépendance et que je ne me soucierais pas de leur regard. Donc c'est une vraie belle collaboration parce que ça part d'une réelle envie de leur part. Et moi, de mon côté, je sais que j'ai pu travailler en totale indépendance et en totale liberté. Mais Inoxtag, pour la petite anecdote, je l'ai rencontré par hasard. Et
c'est pas Webedia qui vous l'a mis sur la liste?
Non. Il a voulu faire ce projet parce que c'était moi et parce qu'il trouvait que le projet était exaltant. Mais Webedia m'a imposé aucune liste. En réalité, ils m'ont vachement accompagné, et notamment Eric Batteux qui a développé ce podcast, et je le remercie, notamment sur la réflexion autour de la création de contenu, parce que moi, je le vois en tant que journaliste et observateur, mais je ne connais pas les choses de l'intérieur. Et donc, ils m'ont nourri aussi en inside, et ça, ça a été une vraie belle collaboration.
La réalisation de ce podcast est assurée par Charles de Cilia, que vous connaissez bien parce que vous aviez déjà travaillé avec lui sur la première mouture de votre podcast Cours Redouane Cours,
oui,
qui à l'époque était chez Nouvelles Écoutes et que maintenant vous produisez vous-même. Quelles indications de réalisation vous lui avez demandé à la base? Quelles intentions?
Déjà, on a construit ce podcast main dans la main avec Charles. Dès que j'ai su que j'allais faire un podcast de ce type, je me suis dit, bah, il faut absolument que je le fasse avec Charles parce qu'on s'était vraiment trouvé sur Cours Redouane Cours. On avait bossé en confiance tous les deux. Et dès le départ, on s'est dit qu'il fallait qu'on arrive à trouver un rythme. De toute manière, c'est mon obsession. C'était déjà mon obsession sur Cours Redouane Cours, qui n'est pas un rythme du podcast. Donc, dans les inspirations que je lui ai envoyées très vite, c'était que des chaînes YouTube, des vlogs. Et j'avais envie que dans l'identité sonore, dans l'esprit, etc., qui est quand même un esprit Internet. Donc là-dessus, avec Charles, on a bien travaillé. Et puis sur la direction d'acteur, on a vachement bossé ensemble les scènes de fiction en réalité. Parce que sur les parties interviews, j'ai géré quasiment tout seul. Mais sur les scènes de fiction, sur les vrais moments de fiction, en fait, il ne fallait pas que ça ressemble à de la fiction sonore. Parce qu'on s'adresse avant tout à des jeunes. Parce que c'est un public qui n'écoute pas du podcast et qui n'écoute pas la radio et qui n'écoute pas des fictions sonores. Donc il fallait les choper avec d'autres codes.
Merci beaucoup Redouane Taylor.
Merci à vous.
Hors ligne, ce sont donc 8 épisodes qui explorent les raisons du burn-out des créateurs de contenu. C'est un podcast éclairant. Alors déjà, parce que les créateurs de contenu acceptent rarement de parler à des médias et encore plus rarement pour évoquer les difficultés de leur métier. C'est donc une parole inédite qu'on découvre dans ce podcast. Mais aussi parce qu'ils proposent quelque chose d'assez frais sur le plan formel, avec une grammaire de docu-fiction que je n'avais pas entendue depuis un bon moment. Tout n'est pas parfaitement joué, mais le côté artisanal de certains passages est plutôt charmant et ressemble aux premières vidéos de pas mal de youtubeurs qui sont devenus des stars. C'est tout le succès que je souhaite à Hors Ligne, qui remplit aussi une vraie mission de service public, celle de nous mettre face à nos responsabilités de spectateurs et de nous inviter à bien nous comporter sur Internet comme dans la vraie vie. Pour écouter les 8 épisodes de Hors Ligne de Redouane Tella et Charles de Cilia, ça se passe sur Ovio, la plateforme de la RTBF, ou sur votre plateforme habituelle. Et il faut bien évidemment les écouter dans l'ordre. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans Algo jusqu'au bout. S'il vous a plu, laissez-nous un gentil commentaire sur votre plateforme d'écoute et bien sûr, partagez l'épisode autour de vous. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle reco, toujours garantie, 100% Sans Algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slate Podcast sous la direction de Christophe Caron. La production éditoriale est assurée par Nina Pareja, la prise de son par Marius Sor et Nina Pareja, et le montage par Mathilde Mélin et Victor Benamou.